France Culture.
Bonsoir, Anouar Abou Aïché.
Bonsoir à vous.
Vous nous avez raconté dans le premier épisode de cette À Voix Nue sur France Culture votre enfance palestinienne à Hébron et la guerre des six jours au cœur de votre adolescence. Vous avez 16 ans au moment où Israël occupe votre ville, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Cette victoire éclair et totale d'Israël, qu'est-ce qu'elle représente pour les Arabes, pour les Palestiniens et pour vous?
C'était un coup de massue sur la tête de tout le peuple arabe. Hein. Je n'avais que 16 ans, même pas, mais je me souviens que tous les gens étaient désespérés. Maintenant, il est vrai qu'à l'époque, la popularité de Jamal Abdel Nasser, président égyptien, a beaucoup joué sur le moral des Arabes. Et surtout, ce sommet, il savait faire des sommets, hein, ces chefs arabes, ils sont toujours très doués pour faire des sommets. Et donc, ils se sont réunis à Khartoum et ils ont sorti avec des grandes pompes dire non à la paix, non à rien de tout, quoi. Ça sera la guerre pour récupérer nos terres. Et il y avait une mobilisation médiatique arabe, dominée par l'Égypte à l'époque, hein, qui influençait tous les Arabes. Donc, c'était le début d'une révolution. C'est dans ce climat-là. Les fidaïens, les résistants palestiniens qu'on ne pouvait pas trouver qui étaient sous terre, en 2 à 3 jours, leur nombre s'est multiplié par 100 000, hein. Et donc, on était très nombreux. À l'époque, à mon avis, en 69, on avait au moins un demi-million de Kalachnikov en Jordanie. Pour un peuple de 3 ou 4 millions, tout le monde était armé. Voilà, c'est vraiment un grand pas vers la révolution, vers la résistance armée.
Mais cette défaite très humiliante pour les armées arabes et très traumatisante pour les Palestiniens, c'est un choc, c'est vécu comme une humiliation.
Absolument comme une humiliation, et surtout, je crois que c'était le début pour tout le peuple arabe de ne plus jamais avoir confiance dans le chef arabe. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, le discours, on y croit pas trop, hein. Tout a été dit, et c'est les mêmes phrases que j'entends depuis des dizaines d'années. Moi, je veux des actes.
Et pourtant, vous allez vous engager. Vous allez vous engager dans ce que vous appelez la résistance, dans le mouvement politique. D'ailleurs, à l'époque, vous êtes politisé déjà? Vous appartenez à un courant en particulier?
Non, je voulais venger mon père. Je voulais venger mon père, tout simplement. J'étais très, très musulman, islamiste même. Pour l'anecdote, je suis allé voir le chef islamiste à l'époque, c'est un parti qui s'appelle le parti At-Tahrir, un parti raciste, islamiste, suprémaciste même, je dirais. Quand j'ai vu le chef, je lui ai dit, bon, il faut qu'on résiste. Il m'a dit, non, on a reçu des ordres de ne rien faire et de rester à la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, ce parti n'a jamais fait une opération de résistance et Israël n'a jamais mis un membre de ce parti en prison jusqu'à aujourd'hui.
Donc au début, vous êtes islamiste.
Absolument.
Mais peut-être que islamiste en 1967, c'est pas la même chose que dans les années 2020. Qu'est-ce que c'est être islamiste dans les années 60?
Si, parce que je ne croyais plus au gouvernement. Je croyais qu'il fallait, comme à l'époque du prophète Mohammed, à savoir, il n'y a pas d'élection. C'est un conseil nommé par les supérieurs et il faut les obéir. En général, vous savez, dans l'islam, Il y a des règles, mais pas des libertés. On est Abdullah. Vous savez tout ce qui est Abed, le nom. Hein. Dieu a 99 noms. Et il y a Abed, ça veut dire esclave de Dieu, avec une nomination ou une autre. Non, j'étais... je savais pas ce que c'était la démocratie et les élections. Hein. Et c'était loin de ma tête. Hein.
Mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque... La Palestine et Hébron en particulier, c'était vraiment un bain bouillonnant de militants d'un peu toutes les tendances. Il y avait tous les courants.
Aux années 50 et aux années 60, nous avions beaucoup de mouvements politiques. D'abord et en premier lieu, bon, il y a les islamistes qui étaient deux. Il y avait les frères musulmans et les plus extrémistes. Mais il y avait les bassistes, qui sont nationalistes arabes. Et le communiste aussi, et le nationaliste arabe. Et tous étaient des militants très motivés. Aux années 50, on voyait beaucoup toujours des Palestiniens qui étaient surtout dans une prison en Jordanie, au sud, dans le désert, et à l'époque, on nous disait, les prisonniers, on les enferme même pas, parce que c'est dans le désert, s'il y en a un qui prend la fuite, il mourra de soif. Et après, quand on les a, ils nous parlent de la torture et tout. C'est progressiste maintenant, je les classifierais comme des progressistes. Ils souffraient beaucoup et ils étaient nombreux, effectivement. Et tous ces progressistes, justement, après 68, ils ont fondé des organisations de résistance qui sont tous dans l'OLP. Il n'y a aucun mouvement islamique ou islamiste qui a fondé une organisation de résistance armée.
Alors pouvez-vous nous expliquer justement ce qu'est l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, parce que c'est vers là que vous allez.
Oui, absolument, mais j'ai envie de parler avant de Fatah. Fatah, c'est l'organisation que j'ai rejoint. Et c'est là que je commençais à être politisé. On a commencé à me parler de la laïcité, je connaissais pas. On a commencé à me parler d'un État laïque et démocratique en Palestine sur la totalité de la Palestine, où les juifs, les chrétiens, les musulmans doivent vivre à égalité de droits et de devoirs. On a commencé à voir autre chose, d'autres gens, quoi, et d'autres idées. À l'époque, c'était bouillonnant.
Et ça vous plaît, ça?
Je me suis adapté. Pour l'anecdote, en 69, moi j'ai vu des maoïstes français qui sont venus chez nous dans les vases et dans le camp de réfugiés en Jordanie.
Qu'est-ce qu'ils venaient faire ces maoïstes?
Et ils venaient exprimer leur solidarité avec nous.
Avec la Palestine?
Avec nous. Je suis palestinien, oui. Et donc, à l'époque, je parlais pas autre langue, ce qui est dommage. Mais en tout cas, on les voyait, ils étaient nombreux, les solidaires internationaux. Mais j'ai envie de retourner là maintenant à ce que c'est l'OLP. L'OLP, c'est une organisation qui a été créée en 1964 par Jamal Abdel Nasser, le président égyptien. Ils ont décidé ça dans un sommet de pays arabes à Jérusalem, où il y avait le roi Hussein.
Puisqu'on était avant la guerre des six jours.
Avant 67, effectivement. Et le premier chef de l'OLP, qui s'appelait Ahmad Choukheri, c'était quelqu'un qui savait faire des discours. On l'écoutait, on l'entendait. Et vraiment, comme Jamal Abdel Nasser, il était très écouté, c'était un avocat qui a été expulsé de Haïfa, il savait parler. Et donc ça influençait tout le monde. Mais c'était... une organisation arabe, pas vraiment palestinienne. Alors, par exemple, je donne un exemple, les Palestiniens de Syrie ont été obligés d'aller à l'armée syrienne, mais sous le drapeau palestinien. En Égypte aussi. Je ne sais pas si ça a été fait, peut-être en Irak, je n'en sais rien, mais en tout cas en Syrie et en Égypte. Et donc, c'est resté une organisation officielle. Pas très populaire. Après 67, après que Fatah, mon organisation, a pris de l'importance et qui est devenue le plus populaire et présidée par Yasser Arafat est arrivé en 69 à présider l'OLP. Donc à partir de là, on peut dire que les institutions de l'OLP sont devenus dominés un peu par Fatah et surtout Yasser Arafat. Et donc, dans cette OLP, toutes les organisations palestiniennes de résistance sont entrées. Et chaque organisation avait un nombre équivalent à sa popularité dans le Conseil national palestinien. Le Conseil national palestinien, c'est la plus haute instance chez le peuple palestinien. Il y a des représentants, surtout élus. Élus comment ? Par exemple, l'Union générale des étudiants de Palestine, partout, on avait 7 places dans le Conseil national palestinien. L'Ordre des médecins, donc c'est des gens qui sont élus indirectement, et chaque organisation avait des sièges. Et ça reste toujours l'instance la plus haute chez nous, les Palestiniens, qui est censée de représenter les Palestiniens de l'intérieur et en diaspora.
Vous avez évoqué un nom très important, celui de Yasser Arafat, qui devient le visage des Palestiniens. Chez vous, on l'appelle Abou Ammar.
Oui.
C'était son nom de guerre.
Ou le vieux, moi, je pense.
Ou le vieux.
Oui.
C'était le keffieh noir et blanc, le treillis, les lunettes noires. Arafat donne pour la première fois un visage à la Palestine.
Absolument, oui. Et il était toujours... il était très courageux, très intelligent. Moi, je le disais, l'ordinateur. Et c'était un ordinateur aussi. C'est un phénomène qui se répétera pas beaucoup de fois, quoi. Oui, c'était un homme très courageux, mais très courageux, qui avait aussi la baraka de Dieu. Parce que combien de fois les Israéliens arrivent à l'endroit où il est, à Jérusalem, par exemple, en 68, 69, il était là. Mais...
Et il s'échappe.
Il s'échappe, oui. Il a pas mangé. Il y avait une maklouba, une renversée. Il a pas mangé, il est parti. Bon, il a échappé à la mort certainement vraiment plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très populaire. Et Amman aussi, il a failli mourir plusieurs fois.
En Jordanie.
Oui, on a de la chance de l'avoir. Et il a su diriger l'OLP et Fatah et jusqu'à sa mort. Dieu et son âme.
Quand vous rejoignez le Fatah, vous rejoignez donc une certaine idéologie, plutôt laïque.
Absolument.
Vous rejoignez aussi parce que c'est le mouvement d'Arafat ?
Je crois pas, parce que moi j'ai essayé de joindre la FPLP avant, mais ils n'ont pas voulu de moi.
Qui était beaucoup plus marxiste.
Oui, mais qui n'ont pas voulu de moi. Je me souviens de ce chef de FPLP, quand il m'a regardé, encore une fois j'étais chétif, il s'est dit, celui-là, il ne pourra pas traverser le Jourdain à pied. Et il n'a pas voulu de moi, mais donc Fatah avait voulu de moi.
Et ce qui est important, c'est que le Fatah va vous former intellectuellement. Grâce au Fatah, vous obtenez une bourse d'étudiant et là, vous commencez tout un cheminement.
La bourse m'a été conférée pour aller en Libye. Et je ne voulais pas aller en Libye, je voulais aller en Algérie. Donc, je suis allé voir l'administrateur, je lui ai dit, je veux vraiment aller en Algérie, moi. Vous ne pouvez pas me changer. Et il m'a dit, écoute, va me trouver quelqu'un qui veut pas aller en Algérie, et on fait l'échange. J'ai trouvé. Et donc, il s'appelle Issa, maintenant il est en Arabie Saoudite, je l'ai vu il y a 10 ans. Et effectivement, ça aurait changé toute ma vie. Hein. Mais moi, je voulais aller à l'Algérie, parce que c'est le pays de la révolution, c'est le pays progressiste, quoi. C'est la jeune Algérie qui vient de se libérer, je voulais vivre cette libération, beaucoup plus que étudier à l'université. Hein.
Et ça a été le cas ?
Ça a été le cas, mais c'était, je viens de dire, la jeune Algérie. Oui, c'était la jeune Algérie, mais j'étais pas seul. Tous les Palestiniens avec moi, on était très attentifs à tout ce qu'ils nous racontaient sur la révolution algérienne. Tout ce qui s'est passé, l'histoire, les résistances, tout ça, on était très attentifs et on était très très bien reçus. Et quelque part, l'Algérie, c'est vraiment mon deuxième pays, parce que j'y ai passé 5 ans, presque chez moi. On est très bien accueillis en Algérie, oui.
Et vous étudiez le droit ?
Ah, alors d'abord, je voulais étudier la médecine, mais j'avais le problème de français. Oh, c'était le ramadan, je n'arrivais pas à dormir, je ne suis pas habitué à l'échec. Et vraiment, je n'arrivais même pas à prendre des notes à la fac. Et donc, il y a une nuit où je n'arrivais pas à dormir. À l'aube, j'ai commencé à jeter, à donner des coups de pied à tout ce qui était libre pour la médecine. Et j'ai changé, je suis allé étudier le droit en arabe. 2 mois après l'ouverture de semestre, enfin le début de semestre. Et là, j'étais content et j'ai bien fait, j'ai rien regretté.
Donc vous étudiez le droit en arabe en Algérie, mais oui. Quand même vous avez un premier contact avec le français que vous allez quand même travailler, développer, notamment en France.
Absolument, et j'ai envie j'ai envie de partager beaucoup d'expériences que j'ai vécues partout avec tout le monde. Et j'ai vécu aussi une expérience réelle qui a influencé mon idéologie personnelle. Bon, je suis arrivé une fois en retard. J'ai pas eu de place à la cité universitaire et il y avait des coopérants français en Algérie et en l'occurrence de coopérants qui habitaient dans un presbytère, le presbytère de Saint-Hubert. Et donc, qui ont accepté, ils avaient de la place, et ils ont accepté que j'habite chez eux. Et je me souviens qu'à l'époque, ma bourse était 360 dinars algériens. Et le coopérant français, à l'époque, il touchait plus que 3000 dinars. Et une partie même est versée en France, en tout cas. Donc, il y avait Roland et Étienne. Qui était français, qui était coopérant technique, et qui nous faisait payer, on était 3 étudiants palestiniens, ils nous faisaient payer seulement 100 dinars pour être logés et nourris. Et eux, entre eux, c'est au prorata de leur salaire. Et il y avait un autre, je crois, qui est venu, quand il y a quelqu'un qui est venu, c'était une communauté vraiment restreinte, et c'était une expérience socialiste, réel, et très fraternel. C'était mon premier contact avec des Français. C'était tellement bien. Il y avait beaucoup d'échanges, et je vais vous dire quelque chose qui vous intéresse, j'en suis sûr. Roland Maché, qui est un saint pour moi, un frère, quoi.
Et l'un de ses deux coopérants.
Oui, un de coopérants, il est toujours à Quetigny, à Dijon. On était frères, et très bien, tout le temps, sauf quand on écoute la radio Palestine à Alger. À 18h, la radio algérienne rentre la radio aux Palestiniens. Et donc, je disais, et même les Palestiniens qui étaient avec moi, qu'on était laïcs. Et alors, quand ça commence la radio Palestine en Algérie, ça a commencé par une sourate de Coran. Inna fatahna laka fatahal mubina. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna fatahna laka. Vous êtes laïcs, vous n'êtes pas laïcs. Et il devenait rouge. Il devenait rouge.
C'était un français laïcard.
Un véritable laïc, un bon cœur. Hein, mais il comprenait pas. Il considérait qu'on était des menteurs, en l'occurrence pour ça, quoi. Si vous êtes laïque, pourquoi vous commencez par une sourate de Coran? Ça l'énervait toujours. Ça, je m'en souviens toujours, mais on est frères toujours, et j'étais le témoin dans son mariage aussi. Et Roland, quand j'ai fini mes 4 années d'études, j'avais envie de continuer mes études en France, et j'avais peur de ne pas trouver de travail et tout ça. Et lui qui m'a dit, tu vas en France, tu essayes de trouver un travail. Si tu ne trouves pas de travail, moi je te donne 1000 francs par mois pour continuer tes études. Et quand tu finis tes études, tu y adoptes un autre étudiant palestinien que tu lui donneras l'équivalent de 1000 francs. C'était, donc, vous imaginez la fraternité. Et c'est vrai que bon, j'ai pas eu besoin parce que j'ai trouvé un travail à la librairie Palestine à l'époque. Et la librairie Palestine, c'est toute une histoire. Elle a été délimitée 3 fois aux années 70.
Alors, elle est où, cette librairie?
24 rue de la Réunion. Bon.
Et dans quelle ville?
À Paris. Oui, 24 rue de la Réunion à Paris, qui a été délimitée 2 ou 3 fois. Enfin, bon, de petits délimitages, quoi. Et donc, j'y ai travaillé, c'était... bon, je suis entré dans le cercle palestinien, puis après, je suis devenu... Bon, j'étais très militant.
Et donc, à l'occasion de ce premier séjour en France, vous allez séjourner dans une famille française qui va vous transmettre énormément.
Absolument. C'était chez Marc Mandel, qui était maoïste et qui faisait partie avec Daniel... sa compagne, qui est devenue sa femme après, qui habitait à Hardricourt, là où habitait l'empereur Bokassa. Et oui, effectivement, j'ai commencé par là, puis après c'était un cercle d'amis maoïstes, j'allais chez l'un et l'autre, et après j'étais au Miro, et je venais à l'Alliance française toujours par le train. Et vraiment, on est très très bien accueillis, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est uniquement la chance, mais j'ai eu la chance toujours de tomber sur des gens très sympas. Et j'ai envie de vous dire quelque chose à ce propos. À l'époque, j'étais chez des couples très sympas. Et alors, quand j'entendais dire qu'ils se sont séparés, je comprenais pas. Parce que la femme est super sympa et le mec est super sympa. Pourquoi ils se séparent? Je comprenais pas. Parce que j'imaginais qu'on se sépare quand il y en a un qui est méchant et l'autre est bon. Ça, c'était le premier phénomène qui m'a choqué en France quand je suis arrivé.
Vous repartez chez vous, vous repartez à Hébron et puis... En juillet 72, oui. Vous êtes arrêté par les Israéliens. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes arrêté?
Aïe, je veux pas le dire. Mais bon. Ah, si, allez, je vais le dire. C'est parce qu'il y a eu une trahison. Et donc, j'ai été dénoncé. Et à l'époque, je suis passé par Beyrouth, où j'ai mis des chaussures dans lesquelles il y a des détonateurs. Et je savais comment fabriquer des explosifs. Et donc, j'ai été arrêté au pont. Je suis resté une semaine en prison sans qu'ils sachent que j'ai des détonateurs dans mes chaussures. Mais les hasards ont voulu, en fait, qu'ils mettent... Alors qu'ils ont fini, donc c'était pendant une semaine, j'ai avoué tout ce qu'ils savaient. Tout ce qu'ils savaient, j'ai avoué. C'était pas possible, sous la torture, de ne pas tout avouer. Et donc après, ils ont mis avec moi un bon mouton qui savait bien me tourner la tête. Et ils m'ont fait comprendre qu'il est expulsé. Et donc, j'ai changé mes chaussures avec lui. Ben, tout de suite après, j'ai compris qu'il était un mouton que je me suis fait avoir. Voilà, mais je suis resté un an, en fait, et j'ai envie d'ajouter que, bon, c'était en 72, et c'était l'époque de Munich, et je suis resté...
Jeux Olympiques de Munich, oui, avec un attentat contre des athlètes israéliens, oui, assassinés par des Palestiniens.
Oui, et ben, je suis resté dans le cachot 72 jours, sans voir personne, en fait. Et j'étais étonné quand je suis descendu en prison de découvrir cette histoire de Munich et tout ça. Mais malgré tout ça, une fois que j'ai été condamné, j'ai passé une des meilleures périodes de ma vie en prison parce que D'abord, parce que celui qui tenait la bibliothèque de la prison partait et j'ai pris sa place.
Elle était où, cette prison, d'ailleurs ?
À Évron. Et parce que, à l'époque, j'étais très jeune encore, et il y avait, avec nous, les prisonniers, c'était des résistances d'une trentaine d'années, de quarantaine d'années, des gens qui ont eu de l'expérience et qui étaient même en prison en Jordanie avant. Et on apprend. Et tu étais avec des gens bien. Et quand on est avec des gens bien, même en prison, c'était bien.
Vous allez passer ces quelques mois en prison. Vous nous dites que c'était plutôt des bons mois. Mais un an après...
Après la torture, hein. Non, pendant la torture et l'isolement, non. Mais une fois condamné, effectivement, c'était bien.
Mais un an après, en 1974, là, vous êtes expulsé. Pour quelle raison ?
Alors, j'étais donc sous résidence surveillée et j'ai engagé un avocat israélien pour obtenir le droit pour partir. Et je parlais de l'interdiction, de mon interdiction de partir faire mes études parce que j'avais déjà fini ma première année en droit, que ça les embêtait. Je bougeais tout le temps pour obtenir ce droit de rejoindre mon université. Ça les embêtait, donc ils m'ont convoqué et ils m'ont dit, écoute, ou tu pars et tu reviens pas, ou tu la fermes et tu restes. Et donc j'ai choisi de partir et j'ai signé une feuille blanche, même à l'époque, qui doit être jeune. Voilà, j'avais envie de partir, j'avais peur surtout. J'avais peur d'être réarrêté pour des activités clandestines.
Donc vous partez, vous signez une feuille blanche. Oui. Vous ne savez pas à quoi va servir cette feuille blanche.
Maintenant, ça doit être une feuille jaune. Je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Non, je ne sais pas, non. Oui, c'est vrai.
Et ce sera, à partir de 1974, le début d'un très long exil, loin de la Palestine, dont nous parlerons dans le troisième épisode. Merci Anouar Abouaïché.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Anouar Abouaïché, réalisation Franck Lilin, prise de son Hélène Langlois, chargée de programme Daphné Abgral. Une série de Frédéric Mettezo, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.